Chapitre 9. La marque des ténèbres. Ne dites pas à votre mère que vous avez parié de l'argent, implora M. Wesley en s'adressant à Fred et à George pendant qu'ils redescendaient l'escalier tous ensemble. Ne t'inquiète pas, papa, répondit Fred d'un ton ravi. On a de grands projets pour utiliser cet argent et on n'a pas du tout envie qu'il soit confisqué. M. Wesley sembla sur le point de demander de quelle nature étaient ses grands projets, mais à la réflexion, il estima préférable de ne rien savoir. Ils furent bientôt pris dans le flot de la foule qui sortait du stade pour revenir sur le terrain de camping. Sur le chemin du retour, l'air de la nuit leur apportait l'écho de chansons hurlées à tue-tête et des farfadets filaient au-dessus d'eux en poussant des cris et en agitant leurs lanternes. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant leur tente, personne n'avait la moindre envie de dormir et compte tenu du vacarme qui régnait autour d'eux, M. Wesley fut d'accord pour qu'ils boivent une dernière tasse de chocolat avant d'aller se coucher. Bientôt, ils se plongèrent dans une discussion allègre et passionnée sur les meilleurs moments du match. M. Wesley n'était pas d'accord avec Charlie sur l'usage excessif des coudes sanctionné par l'arbitre, mais lorsque Ginny tomba endormie devant la petite table de camping et qu'elle renversa du chocolat partout, il déclara qu'il n'était plus temps de refaire le match et insista pour que tout le monde aille dormir. Hermione et Ginny allèrent se coucher dans la tente voisine et Harry et les autres Wesley, après avoir mis leurs pyjamas, se répartirent dans les lits superposés. Des supporters continuaient de chanter de l'autre côté du camping et l'on entendait retentir de temps à autre la détonation d'une baguette magique. « Je suis content de ne pas être de service, » marmonna M. Wesley d'une voix ensommeillée.
« Je n'aimerais pas être obligé d'aller dire aux Irlandais de cesser de faire la fête.
Harry, qui était couché dans le lit au-dessus de celui de Ron, contemplait la toile de la tente, suivant des yeux la lueur que projetait parfois la lanterne d'un farfadet volant aux alentours. En même temps, il repassait dans sa tête les trajectoires les plus spectaculaires de Krum. Il avait hâte de remonter sur son propre éclair de feu pour essayer la feinte de Vronsky. Avec tous ses tableaux et ses diagrammes animés, Olivier Dubois n'avait jamais été capable d'expliquer en quoi consistait exactement cette figure. Harry se voyait déjà vêtu d'une robe de Quidditch avec son nom inscrit dans le dos et il imagina la sensation qu'il éprouverait en entendant les acclamations d'une foule de 100 000 personnes lorsque Ludo Verpé annoncerait d'une voix retentissante « Et voici maintenant Potter !» Harry ne sut jamais s'il s'était endormi pour de bon. S'imaginer volant sur son balai à la manière de Krum avait peut-être fini par devenir un véritable rêve. La seule chose certaine, c'était que M. Wesley avait brusquement poussé de grands cris.
Debout! Ron! Harry! Vite! Debout! Allez, debout! Debout! C'est urgent! C'est urgent!
Harry se redressa aussitôt, sa tête heurtant la toile de la tente. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-il. Il eut la vague impression qu'il se passait quelque chose d'anormal. Les bruits qui provenaient du terrain de camping avaient changé de nature. On n'entendait plus de chansons, mais des hurlements et des pas précipités. Il se glissa à bras de son lit et tendit la main vers ses vêtements, mais M. Wesley, qui avait mis son jean par-dessus son pantalon de pyjama, l'arrêta d'un geste. « Pas le temps, pas le temps, dis-tu, prends ton blouson et sors, vite !» Harry obéit et se précipita hors de la tente, Ron sur ses talons. À la lueur des quelques feux qui continuaient de brûler, il voyait des gens courir vers le bois, fuyant quelque chose qui traversait le pré dans leur direction. Quelque chose qui émettait d'étranges éclats de lumière et lançait des détonations semblables à des coups de feu. Des exclamations moqueuses, des explosions de rire, des vociférations d'ivrognes leur parvenaient. Enfin, une puissante lumière verte illumina la scène. Une foule serrée de sorciers, avançant d'un même pas, la baguette magique pointée en l'air, traversait lentement le pré. Harry plissa les yeux pour mieux les voir. Ils semblaient dépourvus de visage, et il comprit alors que leur tête était recouverte de gagoules. Loin au-dessus d'eux, flottant dans l'air, quatre silhouettes se débattaient, ballottées en tous sens, dans des positions grotesques. On aurait dit que les sorciers masqués étaient des marionnettistes, et les deux silhouettes suspendues au-dessus de leur tête, de simples pantins animés par des fils invisibles qu'actionnaient les baguettes magiques. Deux des silhouettes étaient toutes petites. D'autres sorciers se joignaient à la troupe masquée, montrant du doigt avec de grands éclats de rire les quatre corps qui flottaient dans les airs. Des tentes s'effondraient sur le chemin de la foule en marche, qui ne cessait de grossir à mesure qu'elle avançait. Une ou deux fois, Harry vit un sorcier cagoulé détruire d'un coup de baguette magique une tente qui se trouvait sur son passage. Plusieurs d'entre elles prirent feu, et les hurlements augmentèrent d'intensité. Les quatre malheureux qui flottaient en l'air furent soudain éclairés par une tente en flammes et Harry reconnut l'un d'eux. C'était M. Roberts, le directeur du camping. Les trois autres devaient être sa femme et ses enfants. D'un coup de baguette magique, l'un des marcheurs fit basculer Mme Roberts la tête en bas. Sa chemise de nuit se retourna, laissant voir une culotte d'une taille impressionnante. Elle se débattit furieusement pour essayer de se couvrir pendant que la foule au-dessous criait et sifflait dans un déchaînement d'allégresse. « C'est répugnant !» murmura Ron en regardant le plus petit des enfants moldus qui s'était mis à tourner comme une toupie à 20 mètres au-dessus du sol, sa tête ballottant de tous côtés. « C'est vraiment répugnant !» Hermione et Ginny coururent les rejoindre, enfilant une veste par-dessus leur chemise de nuit. Monsieur Wesley se trouvait juste derrière elles. Au même moment, Bill, Charlie et Percy émergèrent de la tente des garçons entièrement habillés, les manches relevées, brandissant leurs baguettes magiques.
« On va aider les gens du ministère !»
cria M. Wesley dans le tumulte en relevant ses manches à son tour. « Vous allez vous réfugier dans le bois et restez ensemble. Je viendrai vous chercher quand tout sera terminé. » Bill, Charlie et Percy couraient déjà à la rencontre des marcheurs. M. Wesley se précipita à leur suite. Des sorciers du ministère arrivaient de tous côtés, tandis que la foule des sorciers se rapprochait, la famille Roberts toujours suspendue au-dessus de leur tête. « Viens !» dit Fred en prenant la main de Ginny qui l'entraîna en direction du bois. Harry, Ron, Hermione et George les suivirent. Arrivés à la lisière des arbres, ils se retournèrent pour voir ce qui se passait. La foule des sorciers était plus nombreuse que jamais. Les représentants du ministère se frayaient un chemin parmi la cohue, essayant de s'approcher des sorciers cagoulés, mais leur effort restait vain. Ils semblaient avoir peur de lancer un sort qui puisse provoquer la chute brutale de la famille Roberts. Les lanternes colorées qui avaient éclairé le chemin du stade étaient à présent éteintes. Des silhouettes sombres trébuchaient parmi les arbres. Des enfants pleuraient, des cris angoissés, des voix paniquées retentissaient autour d'eux dans l'air froid de la nuit. Harry se sentait poussé en tous sens par des gens dont il n'arrivait pas à voir le visage. Puis il entendit Ron lancer un cri de douleur. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Hermione d'une voix inquiète en s'arrêtant si brusquement que Harry la heurta de plein fouet. « Ron, où es-tu ? » « Oh, c'est idiot ! Lumos !» Elle fit jaillir de sa baguette un rayon lumineux et éclaira le chemin. Ron était étendu de tout son long par terre. « Des trébuchés sur une racine » dit-il avec colère en se relevant.
« Avec des pieds de cette taille, c'est difficile de faire autrement, » dit une voix traînante derrière eux.
Harry, Ron et Hermione se retournèrent et virent Drago Malfoy, seul, appuyé contre un arbre, l'air parfaitement détendu. Les bras croisés, il avait dû regarder ce qui se passait sur le camping à l'abri des arbres. Ron conseilla à Malfoy de faire quelque chose qu'il n'aurait sûrement pas osé répéter devant Madame Wesley. Harry en était convaincu.
« Surveille un peu ton langage, Wesley, »
dit Malfoy, une lueur étincelante dans ses yeux pâles.
« Vous feriez peut-être mieux de vous dépêcher, hein ? J'imagine que vous n'avez pas envie qu'elle se fasse repérer. »
Il fit un signe de tête en direction d'Hermione. Au même moment, une détonation aussi puissante que celle d'une bombe retentit dans le camping et un éclair de lumière verte illumina brièvement les arbres qui les entouraient.
« Qu'est-ce que tu veux dire ?»
lança Hermione d'un air de défi.
« Granger, je signale qu'ils sont décidés à s'en prendre aux moldus, » répondit Malfoy. « Tu as envie de montrer ta culotte en te promenant dans les airs, hein ? C'est ça que tu veux, t'as qu'à rester où tu es. » « Ils viennent par ici, je suis sûr que ça nous ferait tous bien rire. »«
Hermione est une sorcière !» répliqua Harry avec colère.
« Pense ce que tu voudras, Potter, » dit Malfoy avec un sourire mauvais. « Si tu crois qu'ils ne sont pas capables de repérer une sang de bourbe, restez donc ici tous les trois. »«
Fais attention à ce que tu dis !» dit Ron. Tous savaient que sang de bourbe était une façon très insultante de désigner une sorcière ou un sorcier d'ascendance moldue. « Laisse tomber, Ron !» dit précipitamment Hermione en le retenant par le bras alors qu'il faisait un pas vers Malfoy. Une nouvelle explosion encore plus forte retentit de l'autre côté des arbres, provoquant des hurlements autour d'eux. Malfoy eut un petit rire.
« Ils ont vite peur, hein ?» dit-il d'un ton nonchalant. « J'imagine que votre père vous a dit de vous cacher. Qu'est-ce qu'il fabrique, hein ? Il essaye d'aider les moldus ?»«
Et tes parents, où sont-ils ?» lança Harry, qui commençait à perdre patience. « Là-bas, avec une cagoule sur la tête, probablement ?»
Malfoy, toujours souriant, se tourna vers lui. « Si c'était vrai, tu penses bien que je te le dirais pas, Potter, tu t'en doutes, hein ?»«
Bon, ça suffit !» dit Hermione en lançant à Malfoy un regard dégoûté. « Allons rejoindre les autres.
Tu ferais mieux d'aller te cacher avec ta grosse tête mal coiffée,
lança Malfoy d'un ton méprisant. Venez, répéta Hermione en entraînant Harry et Ron. Je te parie ce que tu veux que son père est là-bas avec une cagoule sur la tête, s'emporta Ron.
Espérons qu'il se fera prendre par les gens du ministère, dit Hermione avec fougue.
Mais où sont donc passés les autres? Fred, George et Ginny étaient introuvables. Une foule nombreuse avait cependant envahi le chemin, tout le monde lançant des regards inquiets vers le camping, toujours plongé dans le tumulte. Un peu plus loin, des vociférations s'élevaient d'un groupe de jeunes. Lorsqu'ils virent Harry, Ron et Hermione, une fille, aux épais cheveux bouclés, se tourna vers eux.
« Enfin, c'est incroyable! Qu'est-ce que c'est que cette organisation? Où est Madame Maxime? Nous l'avons perdue! Faites quelque chose, voyons !»«
Pardon ?» dit Ron.
« Mais il comprend rien, celui-là !» dit la fille aux cheveux bouclés en tournant le dos à Ron.
Tandis qu'ils continuaient d'avancer, ils entendirent distinctement parler de Poudlard.
« Beau bâton !» murmura Hermione.
« Comment, dit Harry ?»« Ils doivent venir de Beau bâton !» Tu sais, Beaubaton, l'Académie de magie. Ce sont des Français. J'ai lu quelque chose là-dessus dans le guide des écoles de sorcellerie en Europe.
Ah oui, d'accord, dit Harry.
Fred et George n'ont pas pu aller si loin, dit Ron. Il sortit sa baguette magique et l'alluma comme celle d'Hermione, scrutant le chemin. Harry fouilla les poches de son blouson à la recherche de sa propre baguette, mais elle n'y était pas, il trouva seulement ses multiplettes.
Oh non, non, c'est incroyable, j'ai perdu ma baguette.
Tu plaisantes? Ron et Hermione levèrent leurs baguettes pour éclairer le sol un peu plus loin. Harry regarda tout autour de lui, mais il ne vit pas trace de sa baguette magique.
« Tu l'as peut-être laissée dans la tente ?» dit Ron.
« Ou alors elle est tombée de ta poche pendant que tu courais ?» suggéra Hermione d'une voix anxieuse.
« Oui, dit Harry, peut-être... »
Jamais il ne se séparait de sa baguette lorsqu'il était dans le monde des sorciers, et en être privé à un moment aussi dramatique lui donnait un sentiment de vulnérabilité. Un bruissement les fit sursauter. Ils virent Winky, l'elfe de maison, sortir des broussailles à côté d'eux. Elle avait une étrange façon de marcher. Chacun de ses mouvements paraissait difficile, comme si une main invisible la tirait en arrière.
« Il y a des mauvais sorciers ici »
couina-t-elle, affolée. Elle se pencha en avant et continua d'avancer à pas pesant.
« Il y a des gens qui volent très haut dans les airs, très haut. Winky ne peut pas rester ici !»
Elle disparut alors parmi les arbres de l'autre côté du chemin, poussant de petits cris d'une voix haletante, tandis qu'elle essayait de combattre la force qui la retenait.
« Qu'est-ce qu'elle a ?» dit Ron en la suivant des yeux d'un regard intrigué.
« Pourquoi n'arrive-t-elle pas à courir normalement ?»« Elle n'a sans doute pas demandé la permission d'aller se cacher, » dit Harry. Il songeait à Dobby. Chaque fois qu'il essayait de faire quelque chose qui aurait déplu au Malfoy, il ne pouvait s'empêcher de se donner des coups.
« Tu sais, les elfes de maison n'ont pas la vie facile !» s'exclama Hermione avec indignation. « En fait, c'est de l'esclavage, rien d'autre. Ce monsieur Croupeton l'a obligée à monter tout en haut du stade alors qu'elle avait le vertige et il l'a ensorcelée au point qu'elle n'arrive même plus à courir quand les tentes sont piétinées. Pourquoi est-ce que personne ne fait rien contre ça ?»«
Bah, les elfes sont heureux de leur sort, non ?» dit Ron. « Tu as entendu Winky avant le match ? Les elfes de maison n'ont pas à s'amuser. C'est ça qui lui plaît, obéir. »
« C'est à cause de gens comme toi, Ron, que des systèmes injustes et révoltants continuent d'exister !»
s'emporta Hermione. « Simplement parce qu'ils sont trop paresseux !» Une nouvelle explosion retentit à la lisière du bois.
« Et si on continuait d'avancer ?» suggéra Ron.
Harry vit qu'il regardait Hermione d'un air inquiet.
Peut-être y avait-il du vrai dans ce que Malfoy avait dit. Peut-être Hermione courait-elle un plus grand danger qu'eux-mêmes. Ils repartirent aussitôt, Harry continuant de fouiller ses poches, bien qu'il sût que sa baguette n'y était pas.
Ils suivirent le chemin obscur qui s'enfonçait dans le bois, cherchant des yeux Fred, George et Ginny. Ils passèrent devant un groupe de gobelins qui se disputaient à grands cris un sac d'or gagné sans aucun doute en pariant sur le match. Apparemment, l'agitation qui régnait sur le camping les laissait indifférents. Plus loin, sur le chemin, Harry, Ron et Hermione traversèrent soudain une tache de lumière argentée. En regardant à travers les arbres, ils virent trois magnifiques vélanes debout dans une clairière, entourés d'une horde de jeunes sorciers qui parlaient tous très fort.
« Je gagne à peu près 100 sacs de galions par an. Je travaille comme tueur de dragons près de la commission d'examen des créatures dangereuses. Non, c'est pas vrai. Tu laves la vaisselle au chaudron baveur. Moi, je suis chasseur de vampires. J'en ai tué environ 90 jusqu'à maintenant. »
Un troisième sorcier, le visage couvert de boutons, nettement visible, même dans la faible lueur argentée que répandaient les vélanes, intervint à son tour.
« Moi, je vais bientôt devenir la plus jeune ministre de la magie qu'on ait jamais connue, vous allez voir. »
Harry étouffa un éclat de rire en reconnaissant le sorcier boutonneux. Il s'appelait Stan Rocade et était en réalité contrôleur du Magicopus. Il se tourna vers Ron pour le lui dire, mais le visage de celui-ci était devenu étrangement flasque et un instant plus tard, il se mit à hurler.
« Est-ce que je vous ai dit que j'ai inventé un balai qui peut voler jusqu'à Jupiter ?»«
Non, mais vraiment !» dit Hermione. Harry et elle saisirent fermement Ron, chacun par un bras, et l'éloignèrent de force. Lorsque les voix des Vélan et de leurs admirateurs se furent dissipées dans la nuit, Harry, Ron et Hermione avaient atteint le plein cœur du bois. Ils semblaient seuls, à présent. Tout était beaucoup plus silencieux. Harry regarda autour de lui. « Le mieux, c'est d'attendre ici. Si quelqu'un vient, on l'entendra à des kilomètres. » Il avait à peine fini sa phrase que Ludo Verpé surgit de derrière un arbre, juste en face d'eux. Même à la faible lueur des deux baguettes magiques, Harry remarqua que Verpé avait considérablement changé. Il semblait avoir perdu sa joyeuse humeur et son teint rose. Il marchait à présent d'un pas lourd, le visage livide et tendu.
« Qui est là ? »
demanda-t-il en clignant des yeux pour essayer de les reconnaître.
« Qu'est-ce que vous faites ici tout seul ?»
Ils échangèrent un regard surpris.
« C'est la panique là-bas !»
dit Ron. Verpé le regarda fixement.
« Quoi ?»«
Sur le camping, il y a des sorciers masqués qui ont pris une famille de moldus !»
Verpé lança un juron sonore.
« Des imbéciles »
dit-il, l'air affolé. Il y eut un simple pop, et il disparut en transplanant sans ajouter un mot. « On peut pas dire qu'il soit très efficace, Verpé, » dit Hermione en fronçant les sourcils.
« Peut-être, mais il a été un grand batteur en son temps, »
fit remarquer Ron. Il les emmena à l'écart du chemin dans une petite clairière et s'assit dans l'herbe au pied d'un arbre. Les frelons de Wimbourg ont gagné le championnat 3 fois de suite quand ils jouaient avec eux. Il sortit de sa poche sa petite figurine représentant Krum, la posa par terre et la regarda marcher de long en large. À l'image du vrai Krum, la figurine avait les pieds légèrement écartés, le dos rond et paraissait beaucoup moins impressionnante sur le sol qu'en plein vol sur un balai. Harry tendait l'oreille pour essayer d'entendre ce qui se passait du côté du camping. Tout paraissait silencieux. L'émeute était peut-être terminée. « J'espère que les autres n'ont pas eu d'ennui, » dit Hermione au bout d'un moment. « Ne m'inquiète pas pour eux, » assura Ron. « Imagine que ton père prenne Lucius Malfoy sur le fait, » dit Harry en s'asseyant à côté de lui pour regarder la figurine de Krum se promener sur les feuilles mortes de sa démarche de canard. « Il a toujours dit qu'il aimerait bien le coincer. »«
Drago rigolerait beaucoup moins fêfure, » dit Ron. « Ces pauvres moldus quand même, » s'inquiéta Hermione. « Qu'est-ce qui va se passer s'ils n'arrivent pas à les faire redescendre ?»«
Ils y arriveront !» la rassura Rome.
« Ils trouveront bien un moyen. »«
C'est vraiment fou de faire une chose pareille alors que tous les gens du ministère sont là !» s'exclama Hermione. « Ils ne s'imaginent quand même pas qu'ils vont pouvoir s'en tirer comme ça. Tu crois qu'ils ont trop bu ou simplement que... »
Elle s'interrompit soudain et regarda par-dessus son épaule. Harry et Ron se retournèrent également. On aurait dit que quelqu'un avançait vers eux en titubant. Ils attendirent, écoutant les bruits de pas réguliers qui provenaient de derrière les arbres, plongés dans l'obscurité. Soudain, les pas s'arrêtèrent.
« Il y a quelqu'un ?»
cria Harry. Personne ne répondit. Harry se releva et regarda de l'autre côté du tronc d'arbre. Il faisait trop sombre pour voir très loin, mais il sentait la présence de quelqu'un tapi dans l'ombre, au-delà de son champ de vision.
« Qui est là ? »
demanda-t-il. Puis, brusquement, sans le moindre avertissement, une voix très différente de celle qu'ils avaient entendue s'élever dans les bois déchira le silence. Cette fois, ce ne fut pas un cri de panique qui retentit, mais quelque chose qui ressemblait à un sortilège.
« Morsmorgue !»
Une forme immense, verte et brillante, jaillit alors de l'obscurité, s'envola au-dessus des arbres et monta vers le ciel.
« Qu'est-ce que... »
balbutia Ron en se relevant d'un bond, le regard fixé sur la chose qui venait d'apparaître. Pendant une fraction de seconde, Harry pensa qu'il s'agissait d'un autre vol de farfadet. Puis il s'aperçut que la forme représentait une gigantesque tête de mort composée de petites lumières semblables à des étoiles d'émeraude, avec un serpent qui sortait de la bouche comme une langue. Sous leur regard stupéfait, la tête de mort s'éleva de plus en plus haut, étincelant dans un halo de fumée verdâtre, se découpant sur le ciel noir comme une nouvelle constellation. Et soudain, une explosion de cris retentit dans le bois alentour. Harry ne comprit pas pourquoi, mais seule la brusque apparition de la tête de mort pouvait avoir déclenché tous ces hurlements. La forme verte s'était élevée suffisamment haut à présent pour illuminer le bois tout entier, telle une sinistre enseigne au néon. Harry regarda parmi les arbres pour essayer d'apercevoir celui qui avait fait surgir la tête de mort, mais il ne vit personne.
« Qui est là ? »
cria-t-il à nouveau.
« Harry, viens, dépêche-toi !»
Hermione l'avait attrapé par le dos de son blouson et le tirait en arrière.
« Qu'est-ce qu'il y a ? »
s'étonna Harry, surpris par la pâleur de son visage et son expression terrifiée.
« C'est la marque des ténèbres, Harry !»
gémit Hermione en le tirant vers elle de toutes ses forces.
« Le signe de tu-sais-qui Voldemort ?»«
Harry, viens !»
dit Ron. Harry se retourna. Ron se hâta de ramasser sa figurine et tous trois s'enfuirent en courant. Mais à peine avaient-ils fait quelques pas qu'une vingtaine de sorciers surgirent de nulle part dans une série de détonations et les encerclèrent aussitôt. Tournant sur lui-même, Harry s'aperçut en une fraction de seconde que chacun des sorciers pointait sa baguette magique sur eux.
« Baissez-vous !»
Il attrapa les deux autres par la manche et les projeta à terre.
« Stupéfix !»
rugirent en même temps les 20 sorciers. Il y eut une série d'éclairs aveuglants et Harry sentit ses cheveux s'ébouriffer comme si une puissante bourrasque venait de balayer la clairière. Relevant la tête de quelques centimètres, il vit des traits de lumière rouge-feu jaillir des baguettes magiques et voler au-dessus d'eux en se croisant les uns les autres pour aller rebondir sur les troncs d'arbres et se perdre dans l'obscurité des sous-bois.
« Arrêtez !»
hurla une voix que Harry reconnut aussitôt.
« Arrêtez ! C'est mon fils !»
Le souffle qui agitait les cheveux de Harry s'évanouit. Il releva la tête un peu plus haut. Le sorcier qui lui faisait face avait abaissé sa baguette magique. Harry roula sur lui-même et vit M. Wesley qui s'avançait vers eux à grands pas, l'air terrifié.
« Ron, Harry, Hermione, vous n'avez rien !»
Sa voix tremblait.
« Écartez-vous, Arthur !»
dit une voix sèche et glaciale. C'était M. Croupeton, accompagné d'autres sorciers du ministère, il s'avançait vers eux. Harry se releva pour leur faire face. Le visage de M. Croupeton était crispé par la rage.
« Lequel d'entre vous a fait ça ? »
lança-t-il d'un ton sec son regard aigu allant de l'un à l'autre.
« Lequel d'entre vous a fait apparaître la marque des ténèbres ?»«
C'est pas nous !»
protesta Harry.
« On n'a rien fait du tout !» dit Ron qui se frottait le coude et regardait son père d'un air indigné. « Pourquoi nous avez-vous attaqué ?»«
Ne mentez pas, jeune homme !»
dit M. Croupeton. Il pointait toujours sa baguette magique sur Ron et les yeux lui sortaient de la tête, lui donnant l'air un peu fou.
« Vous avez été pris sur les lieux du crime !»«
Barty !» murmura une sorcière vêtue d'une longue robe de soirée. « Ils sont trop jeunes. Voyons, Barty, jamais ils ne seraient capables de... »«
D'où est sortie la marque ?»
demanda précipitamment M. Wesley.
« De là-bas !» répondit Hermione d'un ton tremblant en montrant l'endroit où s'était élevée la voix. « Il y avait quelqu'un derrière les arbres, il a prononcé un mot, une incantation. »«
Quelqu'un qui se trouvait là-bas. Vraiment !»
dit M. Croupeton en tournant ses yeux exorbités vers Hermione avec une expression de totale incrédulité.
« Et il a prononcé une incantation, c'est bien cela. Vous me semblez très bien informé sur la façon de faire apparaître la marque, mademoiselle. »
Mais apparemment, en dehors de M. Croupeton, aucun autre sorcier du ministère n'estimait vraisemblable que Harry, Ron ou Hermione aient pu faire surgir la tête de mort. Au contraire, en entendant ce qu'avait dit Hermione, ils avaient levé à nouveau leurs baguettes magiques et les avaient pointées dans la direction indiquée, scrutant les arbres.
« Nous sommes arrivés trop tard, » dit la sorcière en robe de soirée. « Ils ont tous transplané. »«
Je ne crois pas, » répliqua un sorcier avec une barbe sombre et hirsute. C'était Amos Diggory, le père de Cédric. Nos éclairs de stupéfaction sont passés à travers ces arbres. Il y a de bonnes chances pour qu'ils aient touché quelqu'un.
« Amos, fais attention !» s'exclamèrent quelques-uns de ses collègues d'un ton alarmé. Mais Amos Diggory rentra la tête dans les épaules, leva sa baguette magique et traversa la clairière d'un pas décidé. Les mains sur la bouche, Hermione le regarda disparaître parmi les arbres. Quelques instants plus tard, ils entendirent M. Diggory pousser un cri.
« Oui, on les a eus. Il y a quelqu'un ici. Évanoui, c'est... Mais ma parole...
« Vous avez attrapé quelqu'un ?»
s'écria M. Croupeton qui ne semblait pas du tout y croire.
« Qui ? Oui, mais qui ? De qui s'agit-il ? »
Ils entendirent des branches craquer, un bruissement de feuilles, puis les pas de M. Diggory qui ressortait du bois. Il portait dans ses bras une minuscule silhouette inanimée. Harry reconnut aussitôt le torchon à vaisselle. C'était Winky. M. Croupeton ne fit pas un geste, ne dit pas un mot, lorsque M. Diggory déposa son elfe à ses pieds. Les autres sorciers du ministère avaient tous les yeux fixés sur M. Croupeton. Pendant quelques instants... Celui-ci resta stupéfait, le visage livide, son regard étincelant posé sur Winky. Puis il sembla revenir à la vie.
« C'est pas possible !»
dit-il d'une voix hachée.
« Non !»
Il contourna M. Diggory et s'avança à grands pas vers l'endroit où il avait découvert Winky.
« Inutile, monsieur Croupton, »
dit monsieur Digory. « Il n'y a personne d'autre là-bas. »
Mais monsieur Croupton semblait décidé à vérifier par lui-même. Il l'entendait s'affairer derrière les arbres, chercher dans les buissons en écartant les branches.
« C'est un peu embarrassant, »
dit monsieur Digory d'un air sombre, en regardant la silhouette toujours inanimée de Winky.
« L'elfe de maison de Barry Croupton. Oh, je dois dire que...
« Allons !» l'interrompit M. Wesley à voix basse. « Tu ne crois tout de même pas que c'est l'elfe qui a fait ça? La marque des ténèbres est un signe de sorcier. Il faut une baguette magique pour la faire apparaître. »«
Oui, » dit M. Digory. « Et elle en avait une. »«
Quoi ?» dit M. Wesley.
« Regarde. »
M. Digory lui montra une baguette magique.
« Elle l'avait à la main, » dit-il. Ce qui viole l'article 3 du code d'utilisation des baguettes magiques. Aucune créature non humaine n'est autorisée à détenir une baguette magique.
À cet instant, il y eut une autre détonation, et Ludo Verpé apparut en transplanant juste à côté de M. Wesley. Essoufflé et désorienté, il tourna sur place, levant ses yeux ronds vers la tête de mort couleur d'émeraude.
« La marque des ténèbres !» halta-t-il en manquant de trébucher sur le corps inerte de Winky. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il à ses collègues. « Vous les avez attrapés, Marty ! Qu'est-ce qui se passe ?»
Monsieur Croupton était revenu bredouille, il avait toujours une pâleur de spectre, ses mains et sa moustache étaient agitées de tics.
« Où étiez-vous passé, Marty ?» demanda Verpé. « Pourquoi n'avez-vous pas assisté au match ? Votre elfe, vous avez gardé une place pourtant ! Sacré gargouille !»
Verpé venait seulement de remarquer Winky allongé à ses pieds.
« Qu'est-ce qui lui est arrivé ?»«
J'ai eu beaucoup de choses à faire, Ludo, » répondit M. Croupton, qui parlait de la même façon haché en remuant à peine les lèvres. « Quant à mon elfe, elle a été stupéfixée. »«
Stupéfixée ? Vous voulez dire... par vous tous ? Mais pourquoi ?»
L'expression du visage rond et luisant de Verpé indiqua qu'il venait enfin de comprendre. Il leva les yeux vers la tête de mort, puis regarda Winky et enfin M. Croupton.
« Non !» s'exclama-t-il. « Winky faire apparaître la marque des ténèbres ? On serait incapable ! D'abord, il lui faudrait une baguette magique !»«
Elle en avait une, » dit M. Digory. « Quand je l'ai trouvée, elle avait une baguette à la main, Ludo. Si vous êtes d'accord, M. Croupton, je pense que nous pourrions écouter ce qu'elle a à dire. »
M. Croupton n'eut aucune réaction et M. Digory interpréta son silence comme une approbation. Il leva sa baguette, la pointa sur Winky et dit
« Innervatum !»
Winky remua faiblement. Elle ouvrit ses grands yeux marrons et battit des paupières à plusieurs reprises, l'air hébété. Sous le regard des sorciers silencieux, elle se redressa en position assise, le corps tremblant. Elle vit alors les pieds de M. Digory et lentement, avec une expression craintive, elle leva les yeux vers son visage. Puis, encore plus lentement, elle regarda vers le ciel. Harry vit la tête de mort gigantesque se refléter deux fois dans ses énormes yeux vitreux. Elle étouffa une exclamation, regarda tout autour d'elle la clairière pleine de monde et éclata en sanglots terrifiés.
« Elfe, » dit M. Digory d'un ton grave, « sais-tu qui je suis ?» « Je fais partie du département de contrôle et de régulation des créatures magiques. »
Toujours assise par terre, Winky se mit à se balancer d'avant en arrière, la respiration saccadée. En la voyant, Harry ne put s'empêcher de penser à Dobby, que sa propre désobéissance remplissait de terreur.
« Comme tu le vois, elfe, la marque des ténèbres est apparue tout à l'heure, »
reprit M. Digory.
Et on t'a trouvé juste en dessous quelques instants plus tard. Alors, explication, s'il te plaît.
C'est pas moi, monsieur,
balbutia Winky.
Je sais pas le faire, monsieur.
Monsieur Digory brandit une baguette magique devant Winky.
Tu avais cette baguette à la main quand on t'a trouvé,
aboya-t-il. La lumière verte qui émanait de la tête de mort éclaira alors la baguette magique et Harry la reconnut aussitôt.
« Mais c'est la mienne »
s'exclama-t-il. Tous les regards se tournèrent vers lui.
« Pardon ?»
dit M. Digory incrédule.
« C'est ma baguette !» assura Harry. « Elle était tombée de ma poche. »«
Tombée de ta poche ?»
répéta M. Digory stupéfait.
« S'agit-il d'un aveu ? Tu l'as jeté après avoir fait apparaître la marque ?»«
Amos, souviens-toi de qui tu parles !» intervint M. Wesley avec fureur. « Est-ce que Harry Potter ferait apparaître la marque des ténèbres ?»
Non, bien sûr, non. Marmonna M. Diggory. « Désolé, je me suis laissé emporter. Bon. »
De toute façon, c'est pas là que j'ai perdu, dit Harry en montrant du pouce les arbres qui s'étendaient sous la tête de mort. Je me suis aperçu de sa disparition juste après être entré dans le bois.
Alors,
reprit M. Diggory en posant un regard sévère sur Winky recroquevillé à ses pieds.
Tu as donc trouvé cette baguette, n'est-ce pas, Elf? Tu l'as ramassée et tu as pensé que tu allais pouvoir t'amuser avec, c'est bien ça?
J'ai pas fait de magie, monsieur.
Queen à Winky, des larmes coulant de chaque côté de son gros nez écrasé.
Je l'ai tout simplement ramassé, monsieur, c'est pas moi, la marque des ténèbres, monsieur, je sais pas le faire.
C'est pas elle, affirma Hermione. Elle avait l'air intimidée devant tous ces sorciers du ministère, mais elle était décidée à parler coûte que coûte. Winky a une petite voix aiguë, or la voix que nous avons entendue prononcer l'incantation était beaucoup plus grave. Elle se tourna vers Harry et Ron pour les appeler à la rescousse. Ça ne pouvait pas être la voix de Winky, vous l'avez entendue comme moi. C'est vrai, c'était pas une voix d'elfe, approuva Harry en hochant la tête. « C'était une voix humaine, » assura Ron.
« Nous allons voir ça, »
grogna M. Diggory qui ne semblait pas impressionné.
« Il existe un moyen très simple de savoir quel est le dernier sortilège qu'a lancé une baguette magique, Elf. Tu le savais ?»
Winky fut secoué de tremblements et hocha frénétiquement la tête, ses oreilles battant comme des ailes tandis que M. Diggory levait sa baguette magique et la mettait bout à bout contre celle de Harry.
« Prior incanto !»
rugit Amos Diggory.
Harry entendit Hermione étouffer un cri d'horreur lorsqu'une gigantesque tête de mort à langue de serpent jaillit à la jonction des deux baguettes. Pourtant, ce n'était qu'une pâle réplique de la tête de mort verdâtre qui flottait au-dessus d'eux. On aurait dit qu'elle était constituée d'une épaisse fumée grise comme un fantôme de sortilège.
« Destructum !»
s'écria M. Diggory. Et la tête de mort se dissipa aussitôt dans une volute de fumée.
Alors ? Hein ? Alors ?
Dit M. Diggory d'un ton brutal et triomphant en regardant Winky toujours agité de tremblements convulsifs.
C'est pas moi !
Cria-t-elle de sa petite voix aiguë en roulant des yeux terrifiés.
Je sais pas le faire. Je suis une bonne elfe, moi. J'ai pas de baguette magique, je sais pas le faire.
« Tu as été prise la main dans le sac, Elf, »
gronda M. Diggory,
« avec la baguette fautive à la main. »« Amos !»
dit M. Wesley d'une voix forte.
« Réfléchis un peu. Il n'y a que très peu de sorciers qui savent jeter un tel maléfice. Où aurait-elle appris à le faire ?»«
Amos, insinue peut-être, »
intervint M. Croupton, détachant chaque syllabe sur un ton de colère froide.
« Que j'ai coutume d'enseigner à mes serviteurs comment faire apparaître la marque des ténèbres ?»
Un silence particulièrement gênant s'installa. Amos Diggory parut horrifié.
« Monsieur Croupton, voyons, c'est pas du tout... »«
Vous avez été tout près d'accuser les deux personnes parmi nous qui sont le moins susceptibles de faire apparaître cette marque, » dit Monsieur Croupton. « Harry Potter et moi-même, j'imagine. » Que vous connaissez l'histoire de ce garçon, Amos.
Bien sûr, tout le monde la connaît, marmonna M. Diggory d'un air déconfit.
Et je ne doute pas que vous gardez en mémoire les nombreuses preuves que j'ai données au cours d'une longue carrière du mépris et de l'aversion que m'inspire la magie noire et ceux qui la pratiquent. S'écria M. Croupton, les yeux à nouveau exorbités.
« Monsieur Croupton, je n'ai jamais laissé entendre que vous aviez quoi que ce soit à voir avec tout cela, » balbutia Amos Diggory qui rougissait sous sa barbe hirsute.
« Si vous accusez mon elfe, c'est moi que vous accusez, Diggory, » dit Monsieur Croupton. « Où donc aurait-elle pu apprendre à faire une chose pareille ?»
Elle aurait pu trouver ça n'importe où. »
« Précisément, Amos, » répliqua M. Croupton, « elle aurait pu trouver ça n'importe où. »« Winky ?» demanda-t-il avec douceur.
Mais l'elfe se recroquevilla, comme si lui aussi avait crié contre elle.
« Où exactement as-tu trouvé la baguette magique de Harry Potter ?
Winky tordait l'ourlet de son torchon avec tant de force qu'il s'effilochait entre ses doigts.
« Oh, ben moi, je l'ai trouvé là-bas, monsieur. Voilà, là-bas, dans les arbres. Monsieur, il est trouvé là-bas, dans les arbres. »«
Tu vois bien, Amos, » dit monsieur Wesley. « Celui qui a fait surgir la marque aurait très bien pu disparaître en transplanant et laisser la baguette de Harry sur place. » C'était habile pour le coupable d'utiliser une autre baguette magique que la sienne, et Winky a eu la malchance de trouver cette baguette tout de suite après.
Mais dormi dans ce cas, elle devait être à quelques mètres du vrai coupable,
s'exclama Monsieur Diggory d'un ton impatient.
Elfe, as-tu vu quelqu'un?
Winky se mit à trembler plus violemment que jamais. Ses yeux immenses papillonnèrent de Monsieur Diggory à Ludo VRP, puis se tournèrent vers Monsieur Croupton. Elle avala avec difficulté avant de répondre.
« Je n'ai vu personne, monsieur. Personne. »
« Amos, » dit monsieur Croupton d'un ton sec, « je sais parfaitement que conformément à la procédure normale, vous souhaiteriez emmener Winky dans votre département pour lui faire subir un interrogatoire, mais je vous demande de me laisser le soin de m'en occuper moi-même. »
Monsieur Diggory n'avait pas l'air enchanté par cette proposition, mais Harry vit clairement que l'importance de monsieur Croupton dans la hiérarchie du ministère lui interdisait de la refuser.
« Vous pouvez être certain qu'elle sera sanctionnée, » assura monsieur Croupton d'une voix glaciale.
« Maître !»
bredouilla Winky en levant vers monsieur Croupton des yeux larmoyants.
« Maître, s'il vous plaît !»
Monsieur Croupton la regarda à son tour, le visage durci, comme si chacun de ses traits s'était brusquement accentué. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux.
« Winky s'est conduite ce soir d'une manière que je n'aurais pas cru possible, » déclara-t-il avec lenteur. « Je lui avais dit de rester sous la tente, je lui avais dit de ne pas bouger pendant que je m'occupais de rétablir l'ordre, et je m'aperçois qu'elle m'a désobéi. Cela signifie qu'elle va recevoir des vêtements. »«
Non !»
hurla Winky de sa petite voix suraiguë en se prosternant aux pieds de monsieur Croupton.
« Non, maître, maître, pas de vêtements, pas de vêtements !»
Harry savait que la seule façon d'accorder la liberté à un elfe de maison consistait à lui offrir des vêtements normaux et il était impossible de ne pas ressentir de la pitié pour Winky en la voyant se cramponner à son torchon et sangloter aux pieds de monsieur Croupton. « Elle a eu peur, c'est pour ça qu'elle est partie !» s'écria Hermione avec colère en lançant à monsieur Croupton un regard indigné. « Votre elfe a le vertige et ses sorciers masqués faisaient léviter leurs victimes. Vous ne pouvez pas lui reprocher d'avoir voulu s'enfuir !» Monsieur Croupton fit un pas en arrière pour se dégager de Winky et la contempla avec mépris. Comme si il s'était agi d'une immondice qui menaçait de salir ses chaussures trop bien cirées.
« Je n'ai pas besoin d'un elfe de maison qui me désobéit, » dit-il avec froideur en tournant son regard vers Hermione. « Je n'ai que faire d'une servante qui oublie ses devoirs envers son maître et ne se soucie pas de sa réputation. »
Winky pleurait si fort que ses sanglots résonnaient dans toute la clairière. Le silence très désagréable qui suivit fut rompu par M. Wesley.
« Si personne n'y voit d'inconvénient, je crois que je vais retourner à ma tente, » dit-il à voix basse. « Amos, nous n'avons plus rien à apprendre de cette baguette magique, si tu voulais bien la rendre à Harry. »
Monsieur Diggory tendit sa baguette à Harry, qui la glissa dans sa poche.
« Venez, tous les trois, »
dit Monsieur Wesley, toujours à voix basse. Mais Hermione n'avait pas l'air de vouloir bouger. Elle n'arrivait pas à détacher son regard de l'elfe qui continuait à sangloter.
« Hermione ?»
dit M. Wesley d'un ton plus pressant. Elle tourna enfin les talons et suivit Ron et Harry parmi les arbres. « Que va-t-il arriver à Winky ?» s'inquiéta Hermione dès qu'ils eurent quitté la clairière.
« Je n'en sais rien, » répondit M. Wesley.
« La façon dont ils l'ont traité !» s'emporta Hermione. « M. Diggory qui l'appelait tout le temps Elfe et M. Croupton !» Il sait parfaitement que ce n'est pas elle la coupable, mais il veut quand même la renvoyer. Il s'en fiche qu'elle ait eu peur, qu'elle soit bouleversée. C'est comme si elle n'était pas humaine.
Ben « Justement, elle l'est pas, »
fit remarquer Ron. Hermione se tourna vers lui.
« Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sensibilité, Ron. C'est répugnant de voir comment... »«
Mais Hermione, je suis d'accord avec toi, » dit précipitamment M. Wesley en lui faisant signe de continuer à avancer. « Mais ce n'est pas le moment de parler des droits des elfes. Je voudrais que nous retournions dans nos tentes aussi vite que possible. » Qu'est-il arrivé aux autres ?
On les a perdus dans le noir, répondit Ron. Papa, pourquoi est-ce que tout le monde était tellement crispé à cause de cette tête de mort ?
Je vous expliquerai tout ça quand nous serons sous la tente, dit M. Wesley, l'air tendu.
Mais lorsqu'ils eurent atteint la lisière du bois, il leur fut impossible d'aller plus loin. Une foule nombreuse de sorcières et de sorciers visiblement terrifiés s'était rassemblée là, et plusieurs d'entre eux se précipitèrent aussitôt sur M. Wesley.
« Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qui l'a fait apparaître ? Arthur, c'est quand même pas lui ! Non, pas lui ! » !»«
Bien sûr que non, c'est pas lui !» répliqua M. Wesley d'un ton agacé. « Nous ne savons pas qui c'est, il semble que le coupable est transplané. En tout cas, rassurez-vous, personne n'a été blessé. Et maintenant, excusez-moi, mais j'aimerais bien aller me coucher !»
Suivi de Harry, Ron et Hermione, il se fraya un chemin parmi la foule et retourna sur le terrain de camping. Tout était paisible, à présent. Il n'y avait plus trace des sorciers masqués, mais plusieurs tentes ravagées par les flammes laissaient encore échapper des filets de fumée. La tête de Charlie apparut sous l'auvent de la tente des garçons.
« Papa, qu'est-ce qui se passe ? » demanda-t-il. « Fred, George et Ginny sont rentrés, mais les autres... »«
Ils sont avec moi. »
le rassura M. Wesley en se penchant pour entrer dans la tente. Harry, Ron et Hermione le suivirent à l'intérieur. Bill était assis devant la petite table de camping, tenant un drap autour de son bras qui saignait abondamment. La chemise de Charlie était déchirée et Percy saignait du nez. Fred, George et Ginny semblaient indemnes, mais secoués.
« Vous l'avez attrapé ?» demanda aussitôt Bill. « Celui qui a fait apparaître la marque ?»«
Non, » répondit M. Wesley. « On a trouvé l'elfe de M. Croupton avec la baguette de Harry à la main, mais on n'en sait pas plus sur l'identité du coupable. »
« Quoi ?»
s'exclamèrent d'une même voix Bill, Charlie et Percy.
« La baguette de Harry ?» dit Fred. « L'elfe de M. Croupton ?»
s'écria Percy comme frappé par la foudre. Avec l'aide de Harry, Ron et Hermione, M. Wesley leur expliqua ce qui s'était passé dans le bois. Lorsqu'ils eurent raconté toute l'histoire, Percy se gonfla d'indignation.
« M. Croupton a parfaitement raison de se débarrasser d'un elfe comme ça. » S'enfuir, alors qu'il lui avait donné l'ordre de ne pas bouger, le mettre dans l'embarras devant les membres du ministère, imaginez le scandale si elle avait dû être interrogée par le département de contrôle et de régulation. Elle n'a rien fait du tout, elle était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, l'interrompit sèchement Hermione.
Percy parut interloqué. Hermione s'était toujours bien entendue avec lui, beaucoup mieux que les autres. Hermione, un sorcier de son niveau, ne peut se permettre d'avoir un elfe de maison qui se met à faire n'importe quelle folie avec une baguette magique. Répondit Percy en reprenant son air important.
« Elle n'a fait aucune folie !»
dit Hermione.
« Elle a simplement ramassé la baguette.
Est-ce que quelqu'un pourrait enfin nous expliquer ce que signifie cette tête de mort ?»
dit Ron.
« Elle n'a fait de mal à personne. Pourquoi tout ce tremblement ?»«
Je t'ai dit que c'est le symbole de tu sais qui, Ron !» répondit Hermione avant que quiconque ait pu prononcer un mot. « J'ai lu ça dans Grandeur et décadence de la magie noire. »
« Et ça fait 13 ans qu'on ne l'avait pas vu, » dit M. Wesley à voix basse. « Rien d'étonnant à ce que tout le monde ait été pris de panique. C'est comme si on avait vu, vous savez qui, revenir. »«
Je ne comprends pas, » dit Ron en fronçant les sourcils. « Après tout, ce n'est qu'une forme dans le ciel. »
« Ron, il faut que tu saches que les fidèles de tu sais qui faisaient apparaître la marque des ténèbres chaque fois qu'ils tuaient quelqu'un, » dit M. Wesley. Tu n'as pas idée de la terreur qu'elle inspirait. Tu es trop jeune, imagine que tu rentres chez toi et que tu vois la marque des ténèbres flotter au-dessus de ta maison en sachant ce que tu vas trouver à l'intérieur.
Monsieur Wesley fit une grimace.
C'était la pire terreur du monde. La pire.
Il y eut un moment de silence. Puis Bill enleva le drap qui lui entourait le bras pour jeter un coup d'œil à sa blessure et dit.
« En tout cas, celui qui l'a fait apparaître ne nous a pas aidés. Dès qu'ils l'ont vu, les mange-morts ont été terrorisés. Ils ont tous transplané sans qu'on ait eu le temps d'en démasquer un seul. Mais on a réussi à rattraper la famille Roberts avant qu'elle tombe par terre. On est en train de leur faire subir des sortilèges d'amnésie. »«
Les mange-morts ? » s'étonna Harry. « Qu'est-ce que c'est que ça, les mange-morts ?»«
C'est le nom que se donnaient les partisans de Tu-sais-qui, » répondit Bill. « Ce soir, on a vu les derniers d'entre eux. Ceux qui ont réussi à ne pas se faire enfermer à Azkaban. »
« On n'a aucune preuve que c'était eux, Bill, » dit M. Wesley. « Mais c'est sûrement vrai, » ajouta-t-il d'un ton désenchanté.
« Ça, j'en suis sûr, » dit soudain Ron. « On a rencontré Drago Malfoy dans le bois, et il a presque avoué que son père était un des cinglés en cagoule. D'ailleurs, on sait bien que les Malfoy étaient du côté de vous savez qui. »«
Mais qu'est-ce que cherchaient les partisans de Voldemort ?» commença Harry. Tout le monde tressaillit.
Comme la plupart des sorciers, les Wesley évitaient toujours de prononcer le nom de Voldemort. « Désolé, dit précipitamment Harry. « Qu'est-ce que cherchaient les partisans de vous-savez-qui en faisant léviter les Moldus ? À quoi ça pouvait bien leur servir ?»«
Leur servir ? » dit M. Wesley avec un rire sans joie. « C'est leur façon de se distraire, Harry. La moitié des meurtres de Moldus qui ont eu lieu lorsque tu sais qui était au pouvoir ont été commis par simple amusement. Ce soir, ils ont dû boire un peu trop et n'ont pas pu résister au plaisir de nous faire savoir qu'ils sont toujours là en liberté. Pour eux, c'était une agréable petite réunion entre amis, » conclut-il avec dégoût.
« Mais si c'était eux, les Mangemorts, pourquoi ont-ils transplané en voyant la marque des ténèbres ?» s'étonna Ron. « Ils auraient dû être contents de la voir, au contraire. »
« Fais un peu fonctionner ta cervelle, Ron, » dit Bill. « Les Mangemorts ont eu beaucoup de mal à éviter de se retrouver à Azkaban quand tu sais qui a perdu le pouvoir. Ils ont raconté toutes sortes de mensonges en prétendant que c'était lui qui les obligeait à tuer et à répandre la souffrance. J'imagine qu'ils auraient encore plus peur que nous de le voir revenir. Ils ont toujours nié leur lien avec lui lorsqu'il a été privé de ses pouvoirs et qu'ils ont dû retourner à leur vie quotidienne. Donc ça m'étonnerait qu'ils soient très contents d'eux, tu comprends ?
Mais alors, celui qui a fait apparaître la marque des ténèbres, dit lentement Hermione. « Voulait-il manifester sa sympathie aux Mangemorts ou leur faire peur ?»«
Nous n'en savons pas plus que toi, Hermione, » répondit M. Wesley. « Une chose est sûre, en tout cas, seuls les Mangemorts savaient faire apparaître la marque des ténèbres. Je serais très étonné que le coupable n'ait pas été lui-même un Mangemort à un moment de sa vie, même s'il ne l'est plus. Écoute-moi maintenant, il est très tard, et si jamais Molly apprend ce qui s'est passé, elle va se faire un sang d'encre. Nous allons dormir quelques heures et nous essaierons d'attraper un porte-au-loin demain matin de bonne heure pour rentrer à la maison. »
Harry retourna dans son lit, l'esprit en effervescence. Il savait qu'il aurait dû être épuisé, il était près de 3 heures du matin, mais il se sentait parfaitement éveillé, éveillé et inquiet. 3 jours plus tôt, on aurait dit qu'il s'était passé plus de temps, mais 3 jours seulement s'étaient écoulés. Une douleur à sa cicatrice l'avait réveillé brusquement. Et ce soir, pour la première fois depuis 13 ans, la marque de Lord Voldemort était apparue dans le ciel. Que signifiait tout cela ? Il repensa à la lettre qu'il avait écrite à Sirius avant de quitter Private Drive. L'avait-il déjà reçue ? Quand y répondrait-il ? Harry resta étendu à contempler la toile de la tente, mais à présent, il ne s'imaginait plus en train de faire des prouesses sur un balai volant. Et ce fut longtemps après que Charlie eut commencé à ronfler qu'il finit enfin par s'endormir.